Alors, on est passé au deuxième point très naturellement. Et donc, en fait, si tu peux, ou si tu veux bien le faire, Philippe, hein, ce qui nous intéresserait, c'est que tu brosses un peu un tableau de l'état des lieux de la recherche en linguistique et en informatique, en quelque sorte, quand tu es arrivé, donc dans les années 90. Et donc, quels étaient les modèles dominants? Tu as rapidement parler de la grammaire générative, tout le monde connaît le nom de Chomsky, mais je pense que c'est intéressant aussi que tu nous montres peut-être l'importance qu'il a eue, qu'il a toujours, hein. Et après, comment les choses ont évolué par et grâce à tes recherches?
Alors, Chomsky, c'est la grammaire générative, et Chomsky, c'est absolument déterminant dans mon domaine de recherche qui est la linguistique formelle et la linguistique computationnelle. Hein, c'est vraiment les deux. Ce que Chomsky a montré, c'était qu'on pouvait décrire le langage de façon en quelque sorte ensembliste et avec un outil qui s'appelle la grammaire. Et grâce à une grammaire, on est capable de générer une langue. Hein, le français ou n'importe quelle langue naturelle est générée par une grammaire et par un ensemble de règles. Donc c'est cette relation qui existe entre cet outil, ce moteur en quelque sorte, et la langue qui est absolument déterminante dans les approches génératives. Elle est déterminante parce qu'elle a permis également en informatique de donner des solutions qui sont des solutions claires, simples. Quand on devait faire des analyseurs syntaxiques, eh bien les grammaires syntagmatiques qui étaient le cœur de toutes les approches génératives, les grammaires syntagmatiques, on a des règles syntagmatiques qui nous expliquent comment une phrase, c'est un groupe nominal et un groupe verbal, un groupe nominal, c'est un déterminant et un nom, etc., etc. Et on a une série de règles de réécriture, ça s'appelle, et dont on fait le parallèle en logique d'ailleurs. Hein. C'est vraiment comme ça qu'on implantait les choses, on développait des programmes comme ça, et c'est aussi la raison du succès de toutes ces approches-là pendant très longtemps en informatique, en traitement automatique des langues. Le succès de Chomsky, c'était cette capacité à décrire de façon formelle, précise, avec un outil mathématique qui permettait d'expliquer les choses, de les démontrer et de les implanter, de développer. Donc encore une fois, ça a été long, et c'est encore aujourd'hui hein, dans bien bien des analyseurs et des outils qu'on utilise utiliser. Donc le
Et donc, ce
mainstream,
que tu
c'était
veux dire
ça.
en fait, c'est que ça, c'était le mainstream, et une des raisons pour lesquelles ça avait autant d'impact, c'était parce que la grammaire générative, les règles de la grammaire générative avaient été décrites de manière très claire et que du coup, c'était testable en quelque sorte. C'était
Absolument.
un modèle qui pouvait être
Absolument.
testé en utilisant différentes méthodes.
Chomsky a été un des premiers, pas le premier, mais quasiment, hein, un des premiers à vraiment formaliser de façon systématique, systématique au sens système, quoi, l'outil qui permet de décrire le langage. Et ça, c'est la grammaire. Alors, l'intérêt, c'était celui-ci. Le défaut, c'est que quand on considère que le langage, c'est cet ensemble qui est généré par la grammaire, eh bien, tout ce qui n'est pas généré par la grammaire, ou plutôt le langage, c'est seulement ce qui est généré par la grammaire. Et tout ce qui est en dehors de ça, eh bien, ça ne fait pas partie de la langue. Et le gros problème des approches génératives, c'est que on a une vision extrêmement rigide. Alors en même temps, c'est
Et
intéressant
réductrice
pour les
aussi.
propriétés mathématiques et computationnelles, mais ça ne correspond pas à ce dont on a besoin, dont un linguiste a besoin lorsqu'on est confronté aux données réelles et aux données de la langue naturelle. Je reviens à mes premières amours, là, qui étaient. On faisait des enregistrements de français parlé, et lorsque je posais la question à mes collègues générativistes, ils me disaient, mais ça, c'est pas du français. Eh bien, pourtant, oui, c'est du français, parce que. Et c'est une des évolutions désormais là, des grands courants de la linguistique cognitive et des grammaires basées sur les usages, c'est ça. C'est la prise en compte des données telles qu'on les observe. Et nous, notre boulot de linguiste, c'est de décrire ce qu'on observe. C'est une science du vivant, une science avec un matériel qui est vivant, exactement comme le boulot d'un physicien qui est de décrire ce qu'il observe et pas de réduire ou de simplifier. Bien sûr qu'on simplifie, mais il ne faut pas trop le faire.
Mais donc du coup, ce que tu dis, c'est que là, comment dire, la langue à laquelle s'intéressait Chomsky, c'était alors quoi? C'était une langue écrite? C'était pas une langue basée sur les usages? C'était pas une langue parlée?
Chomsky ne s'intéresse pas à la langue, il s'intéresse au fond, à la fonction.
D'accord.
Langage. Oui. L'anglais ou le il s'intéresse pas à ça. Il s'intéresse pas à ces phénomènes. Il le dit d'ailleurs. C'est un épiphénomène. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut expliquer, c'est la fonction. Et cette fonction-là, pour Chomsky, il est toujours très provocateur. C'est un organe mental pour lui, vraiment. Hein, c'est quelque chose qui existe dans le cerveau, qui a une réalité, y compris physiologique.
Oui.
Ce qui explique aussi toute sa théorie de linnéisme.
Et de modularité aussi.
Alors ça, c'est l'autre point aussi. Essentiel qui caractérise les approches génératives, les grammaires génératives. Pour Chomsky, la syntaxe est au cœur de tout. Et tout vient se greffer là-dedans. Ce qu'il y a avant la syntaxe, c'est le lexique, la phonologie, etc. Et après la syntaxe, c'est la sémantique, la pragmatique et tout ce qui fait qu'on peut communiquer et se comprendre. Mais tout ça, ce sont des modules, c'est des étapes et c'est une vision qui est encore aujourd'hui qui est extrêmement dominante. Cette vision des modularis qui consiste à dire qu'on traite le langage étape après étape, pas à pas. On traite d'abord, pour aller très très vite, les sons, puis les mots, puis les groupes de mots, les syntagmes, puis les phrases, pour ensuite pouvoir les interpréter. Et on retrouve ça, y compris dans beaucoup de domaines en neurosciences et en neurolinguistique. Les recherches de Stanislav Dehaene, par exemple, ou de Angela Friderici, s'appuient vraiment encore complètement sur cette vision qui est très modulariste, même s'ils le rejettent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le modularisme est un problème, c'est une limite essentielle pour la description du langage. Donc ça, c'est la grande évolution récente hein, dans les années... c'est difficile de dater parce que ça a été concurrent, mais c'est très récent, c'est dans les années 90, c'est les usages, la prise en compte des usages et la contestation de cette vision beaucoup trop stricte, étape après étape, encore une fois, séquentielle et modulaire, du langage et de comment on fait pour comprendre.
Oui, ce qui m'étonne, c'est que tu dises que la théorie de la grammaire générative ou les modèles proposés par Chomsky sont encore dominants. Tu penses vraiment que... parce que quand même, justement, ces grammaires basées sur les usages, les grammaires de construction, à la fin, tu faisais référence à la neurolinguistique, ce qu'on a appris en 20 ou 30 ans de l'organisation fonctionnelle du cerveau, a quand même clairement démontré qu'on n'a pas un centre du langage, tu vois, même si Broca, Wernicke jouent un rôle, bien sûr.
Ouais.
Mais enfin, maintenant, il me semble que la tendance actuelle, en neurolinguistique en tout cas, c'est plus de parler de réseaux, et de réseaux qui sont très distribués, plutôt que de la fonction linguistique bien résumée dans l'organe du langage.
Non, je dis que les idées de Chomsky restent vraiment, vraiment encore fortement ancrées et on a souvent beaucoup de mal à en sortir. Pour une autre raison, c'est que oui, aujourd'hui, ce n'est plus le courant dominant. Le générativisme est encore très puissant, hein, bien sûr. Et il y a en France, il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs dans ce courant-là, peut-être d'ailleurs plus qu'ailleurs. Ces approches basées sur les usages et sur la prise en compte de la langue telle qu'elle est et de son organisation est désormais prise en compte. Le problème auquel on est confronté, on parlait des grammaires de construction, tu as cité cette théorie-là, qui est sans doute la théorie qui désormais est là, ouvre le plus de perspectives dans tous les domaines.
Tu peux en dire un mot sur les...
Les grammaires de construction consistent à dire que plutôt que d'avoir cette vision extrêmement modulaire d'une part et avoir un système qui s'appuie sur des règles qui organisent, qui déduisent en quelque sorte une structure et qui construisent une structure unique à partir de laquelle on va interpréter, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe et construire le sens, les grammaires de construction proposent de voir les choses de façon beaucoup plus globale et disent une construction, c'est la concentration d'un ensemble de phénomènes. Par exemple, on a une indication prosodique, on a une information lexicale, par exemple, et une information purement pragmatique sur le discours. On peut parler, par exemple, un exemple de construction, c'est une tournure interrogative, par exemple, en français. On sait que la prosodie est extrêmement importante. Si je vous dis ta 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 ta, on peut mettre n'importe quel matériel lexical derrière. On sait que c'est une question. Et aucun locuteur francophone n'aura un doute là-dessus. Donc vous pouvez mettre derrière ça une suite de mots sans aucune construction syntaxique, et vous interpréterez ça comme une question et vous serez capable de l'interpréter. Donc les grammaires de construction, elles disent ça. Elles disent, voilà, on a du matériel lexical, du matériel prosodique, du matériel phonologique, syntaxique, etc. Et tout ça va apporter des informations. Quelquefois, c'est plus la syntaxe qui va en apporter. Quelquefois, c'est plus la prosodie. Quelquefois, c'est plus les mots eux-mêmes. On sait qu'on a le sens des mots peut être bien souvent très important. Quelquefois, autre type d'exemple pour les constructions, les idiomes, les proverbes. On a là quelque chose qui est souvent figé, pas complètement figé, mais qui forme une unité. Et la caractéristique des constructions dans les grammaires de construction, c'est que chaque construction est associée à une interprétation, à un sens, à une unité de sens. Et du coup, on remet en question là, complètement la vision classique, générativiste, qui s'appelle la compositionnalité, qui consiste à dire que le sens du tout est une composition, une fonction du sens des parties. Ça, c'est pas comme ça que ça marche. Et les grammaires de construction ouvrent ça comme perspective, cette idée qu'on a des petits îlots qu'on est capable d'interpréter, de construire, et ça va très bien avec beaucoup de choses. Et il y a, par exemple, en psycholinguistique, il y a une théorie qui est assez fascinante, qui est la good enough theory, où on traite les choses de façon superficielle et on capte juste ce dont on a besoin, good enough. C'est juste, j'ai à peine besoin de ça. Quelquefois c'est un mot, quelquefois c'est une intonation, comme je l'ai dit, quelquefois c'est un geste, et ça suffit. Et on fait les choses de façon très superficielle. Et mon travail, moi, mes recherches ont depuis longtemps porté sur cette idée-là, que le langage s'explique, on est capable de se comprendre parce qu'on est capable de grappiller des éléments d'information, de sens, un peu de partout, et on les agrège les uns aux autres. C'est extrêmement difficile de formaliser ça. Les grammaires de construction ne sont pas vraiment formalisées. C'est une des grandes difficultés qu'on a. Et c'est donc du coup, c'est pas formalisé, et c'est d'autant plus difficile à implanter lorsqu'on essaye de faire des programmes qui vont s'appuyer là-dessus.
Oui, ça c'était exactement ma question, parce que je me disais que tu avais souligné le fait que un des avantages de la théorie de la grammaire générative de Chomsky, c'était que ça avait été énoncé de manière à ce que ça soit testable en utilisant différentes méthodes. Est-ce que c'est le cas ? Tu as l'air de dire que non, des grammaires de construction. Alors, est-ce qu'il y a des expérimentations en psycholinguistique ou en neurolinguistique ?
J'en ai conduit quelques-unes en psycholingue avec il y a longtemps déjà avec Barbara Hemford, qui est maintenant à Paris, qui était à Aix dans le labo à l'époque, qui portait sur cette notion de grammaticalité où on essayait de déterminer une espèce. J'ai toujours été aussi fasciné par ça. Il faut l'expliquer une gradience dans la grammaticalité. Ça c'est dans ce que Chomsky n'est pas capable. Enfin, Chomsky. Les approches qui sont trop, on va dire, rigides ne peuvent pas expliquer. Pour faire ça, et je reviens à ce que je disais au tout début, je propose un cadre de formalisation justement de toutes ces informations-là qui s'appuie totalement sur les contraintes. On a des ensembles de contraintes, par exemple, on a une contrainte d'adjacence. On a deux unités qui doivent être adjacentes. On a des contraintes de linéarité. On sait qu'en français, par exemple, les têtes syntaxiques précèdent les compléments. Le verbe, pour un exemple, va précéder tous ces compléments. Et c'est l'inverse en japonais, par exemple. Donc on a des contraintes de linéarité, on a toutes sortes de contraintes. Et c'est des petits éléments d'information qu'on est capable d'évaluer séparément. Plutôt que d'avoir un système complet qui nécessite la construction d'une structure unique, ce qui est le cas des approches, on va dire, classiques, syntagmatiques, par exemple, on a là des éléments d'information qu'on est capable de grappiller et d'ajouter, qui permettent de déclencher, d'activer les constructions. L'idée, elle est là. Ces éléments d'information sont difficiles à représenter de façon systématique, mais dès lors qu'on ne veut pas construire une structure complète, un arbre syntaxique est une structure mathématiquement, c'est un graphe orienté sans cycle. Donc si il suffit de dire ben, pourquoi faire ça ? On n'a pas besoin de ce graphe orienté sans cycle, on a besoin d'un graphe qui n'est même pas connexe, c'est-à-dire des éléments d'information et qui vont avoir une densité, des sous-graphes qui vont être très denses et qui vont nous permettre de caractériser ces constructions. Et donc l'approche à la fois computationnelle et formelle consiste à identifier ces graphes-là et ce qui va réunir les objets dans les graphes, ce sont les contraintes précisément. Et ça offre un cadre à la fois théorique, formel et d'implantation des constructions. Donc on a conduit pas mal d'expériences là-dessus, là, qui montrent la validité de cette idée-là. Il reste encore beaucoup de choses à faire.
Et en neurolinguistique ? Est-ce que, comment dire, ouais. Est-ce que les grammaires de construction ont été testées en utilisant les méthodes de la neurolinguistique?
Alors, il y a Pulvermüller qui a écrit, qui a fait des manuels qui montrent que les assemblées de neurones, pour lui, alors, c'est compliqué, hein, mais je pense qu'il faut... Bon, je pense, on le sait, vous mieux que moi, mais il faut être prudent là-dedans, mais... Cette idée que les constructions représentent des blocs d'informations dans lesquels il y a une certaine densité d'informations, et je l'ai dit tout à l'heure, vont pouvoir s'activer avec des fonctions d'activation. Eh bien ça, ça fait écho avec cette question d'assemblée de neurones qui vont pouvoir s'activer aussi avec des fonctions d'activation de la même façon. Pulvermüller a montré que on pouvait détecter très très tôt des blocs qui sont des constructions, par exemple un clitic, c'est-à-dire un pronom personnel sujet et un verbe, ou un déterminant et un nom, tout ça est traité d'un bloc, et c'est traité de façon très très anticipée et automatique. C'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître avec des effets très très anticipés, mismatch negativity, on fait avec des
négativités. C'est-à-dire le traitement automatique de l'information.
Voilà,
quoi.
Donc c'est vraiment... Donc il montre qu'on est capable d'avoir par exemple, de détecter des fautes d'accord, ce qui est assez surprenant, mais de façon complètement automatique. Et du coup, pour lui, c'est l'explication, c'est qu'on a ces assemblées de neurones qui représenteraient quelque part ces constructions. Bon,
soit qui représenterait, soit qui aurait été formé par ces constructions du fait de leur probabilité d'occurrence.
Alors, la question, c'est oui, c'est exactement ça. Mais la question, c'est aussi comment on fait, parce qu'on sait que ces constructions sont multimodales. Et donc là, ça devient quand même compliqué, parce que du coup, il y a des informations audio, des informations visuelles, les gestes jouent un rôle déterminant dans la compréhension du langage. On ne peut pas expliquer le langage sans expliquer son incarnation. Écrire, Chomsky travaillait que sur du texte. Hein. Nous, on cherche à expliquer comment fonctionne le langage dans son utilisation, dans son environnement écologique. Donc, on a des sources d'informations qui sont extrêmement variées, et ça, c'est très compliqué. Il y a un point qui est fascinant, et je reviens sur la question de l'informatique, là. C'est l'apprentissage automatique. Aujourd'hui, avec ces techniques d'apprentissage automatique, les réseaux de neurones, mais pas seulement, les deux vont un peu de pair, on est confronté à cette même question. Comment faire parler ensemble, en quelque sorte, des informations d'origines diverses, des informations qui viennent de modalités différentes, qui ne sont pas synchronisées, qui sont bruitées, qui sont très très hétérogènes, qui ne sont pas alignées, etc. Donc ça, c'est un problème qui est compliqué pour nous, du point de vue théorique et formel en linguistique, compliqué du point de vue computationnel, et c'est une question essentielle en apprentissage automatique, c'est l'apprentissage multimodal. Et donc cette piste-là pose aussi des questions, évidemment, en neurosciences computationnelles, lorsqu'on veut essayer de représenter ça sous forme de réseau, clairement, quoi. Et comment tout ça s'active.
Et du coup, est-ce que ça marche?
Alors, c'est très compliqué. Aujourd'hui, en machine learning, ça marche pas très très bien.
Du coup, tu passes au machine learning alors.
Pardon ?
Maintenant, tu passes au machine learning.
Mais alors, ça, c'est un grand courant dans notre domaine, le traitement automatique des langues. Oui. On est passé des approches symboliques basées sur les règles aux approches numériques. La transition s'est faite par les probabilités. C'est d'un coup, il y a des gens qui sont arrivés et qui disaient c'est très bien tout ça, mais donnez-moi des données et moi, je suis capable de me produire un programme qui sera bien plus efficace uniquement à base d'approche numérique. Et ça, on était très vexés, nous, à la fois les linguistes et les informaticiens, on pensait qu'on avait besoin de systèmes experts et qui encodaient une expertise. Et là, on est passé à une période totalement d'ingénierie où on a passé des années à calculer la valeur du paramètre qui allait permettre d'adapter le modèle pour faire ça. Et désormais, avec l'apprentissage automatique, on arrive à quelque chose de plus... des questions qui sont plus fondamentales, plus essentielles, qui est celle de l'interprétation, en particulier dans le deep learning, les réseaux de neurones. On peut faire des réseaux, bien souvent on ne comprend pas ce qu'ils font. Ça, c'est le problème des approches en machine learning et en deep learning, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc la question qui se pose aujourd'hui, du point de vue informatique, c'est comment interpréter les réseaux, qu'est-ce qu'on veut leur faire dire. Et là, en arrivant avec nos questions à nous, d'ailleurs, et c'est pour ça que ce qu'on fait à l'ILCB est fascinant, c'est qu'on arrive avec des questions qui sont « ok, je ne sais pas faire ». C'est vachement compliqué de faire, par exemple, de l'apprentissage automatique multimodal, mais les solutions qu'on commence à aborder, parce qu'on pose ces questions-là, ont un impact non seulement sur les techniques qu'on va utiliser en machine learning, mais aussi sur est-ce que ça, quelle est la réalité biologique de ça, réseau de neurones artificiels versus réseau de neurones naturels. Eh bien, ça, c'est une question qui est ouverte. Hein. On ne sait pas répondre à ça aujourd'hui. On a des éléments de réponse, hein, mais on ne sait pas répondre.
Mais comme tu le soulignes, en fait, ça, c'est un rôle majeur de l'ILCB, à mon sens. C'est vraiment de permettre à des chercheurs d'horizons très différents, qui n'auraient jamais pensé à travailler ensemble, de le faire parce qu'ils ont effectivement des expertises qui sont nécessaires pour répondre aux problèmes posés. Quoi.
Et la question que tu posais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a comme manip, comme expérience en neuro, côté neuro là-dessus, ben c'est extrêmement compliqué parce qu'on pose des questions qui sont méthodologiquement extrêmement complexes. On veut travailler sur le langage dans un contexte naturel. Faire de l'imagerie, faire de l'électroencéphalographie avec deux personnes, enfin c'est vous les spécialistes quoi, mais qui parlent, qui bougent avec des gestes, ça devient possible désormais, ça l'était encore totalement impossible il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça.
Je crois que Vincent, il enregistrera qui bouge dans son labyrinthe.
Oui, mais alors ça reste quand même assez limité à certaines structures. Hein. Donc là, si tu veux vraiment une imagerie totale, c'est déjà plus compliqué.
Ouais. Plus compliqué.
Enfin, il y a des techniques.
Mais c'est une vraie question, ça, par exemple. C'est pas seulement c'est une question aussi matérielle, la question du traitement du signal qu'il y a derrière, mais c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans. Hein. Toutes les manips en neurolingue, c'est des potentiels évoqués, sont déclenchés par un stimulus contrôlé, et toutes les données sont contrôlées. Mmh. Comment on fait pour travailler sur des données naturelles? Ça, c'est la grande question aussi qu'on soulève à l'ILCB, c'est un défi majeur. On ne sait pas répondre à cette question-là. C'est un défi majeur. On commence. On a des. Il faut oser se confronter à des données qui sont vraiment pas propres. Et pas seulement du point de vue du bruit, mais du point de vue également des conditions expérimentales, du contrôle de ces données-là. Mais voilà, ça permet d'ouvrir des pistes de réflexion qui sont des pistes d'avenir, hein, clairement.
Tout à fait, merci pour ces perspectives. Donc juste pour résumer un peu ce que tu nous as dit, et vois si tu veux rajouter quelque chose, mais donc si j'ai bien compris, quand tu es arrivé dans les années 90 dans le domaine de la linguistique et de l'informatique, on va dire, au sens où tu l'as défini, quand même, le modèle dominant, c'était vraiment celui de la grammaire générative, des linguistiques formelles et computationnelles développées par Chomsky. Mais toi, tu as vu la naissance, en quelque sorte, et l'arrivée dans le tableau des grammaires basées sur les usages, des grammaires de construction. Et depuis cette époque, en fait, on tend, comme tu le disais en conclusion, à étudier vraiment le langage dans toute sa complexité naturelle et de manière écologique. Et d'essayer d'arriver à formaliser, enfin pas formaliser ça, mais comment dire, à mettre ça dans des programmes informatiques, comment tu le dis ça?
C'est ça, à implanter simplement les modèles qu'on cherche à. C'est des modèles holistiques aussi, dans le sens où. Mais ça, c'est cette évolution, on l'a vu en linguistique. Les linguistes, jusqu'à une période très récente, il y avait les phonologues, il y avait les phonéticiens, il y avait les syntacticiens, les sémanticiens, les pragmaticiens, et tous ces gens-là ne parlaient pas ensemble. Et chacun voyait son propre domaine scientifique comme étant le cœur. Chomsky voyait la syntaxe au cœur de ça. On a un grand professeur à Aix, qui est à la retraite depuis de nombreuses années, qui est Albert Di Cristo, qui lui disait que tout s'organisait autour de la prosodie. Chacun voyait midi à sa porte. Belle expression idiomatique traitée d'un bloc.
Oui, exactement.
Chacun voyait midi et le reste, j'aurais pu dire n'importe quoi.
N'importe quoi, j'avais compris.
Parce que c'est une construction.
Tout à fait, tout à fait.